Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec, comme chaque soir, même à distance, le débat des grandes voix avec Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Alain Accot, le chef du service Police-Justice d'Europe 1. Et toutes vos réactions, n'hésitez pas à vous adresser aux grandes voix, même à distance. Ils vous écoutent, ils vous répondent sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte et au 3921 en direct, Nathalie.
Bonsoir à vous, les grandes voix à distance.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Et une pensée à nos grandes voix historiques, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, hein, qui vont bien et que l'on retrouvera très vite avec plaisir. On les embrasse d'ailleurs chaleureusement ce soir, mais de loin. C'est promis, hein, dans le studio, ils seront là au complet, rassurez-vous. Alors, quant à nous, les amis, bah, je suis ravie de vous avoir ce soir. Peut-être Ève Roger pour commencer. Avez-vous écouté mon invité il y a quelques instants, soigné, Yves Morin, hein, soigné depuis une semaine maintenant par la chloroquine?
Oui, je l'écoutais, je me disais soigner, en réalité on ne sait pas, parce que en gros la maladie elle dure 10 jours, le traitement il dure 10 jours, et on ne sait pas s'il est soigné grâce à la chloroquine ou grâce au virus qui s'en va. Il n'y a pas de preuve. On ne sait pas si c'est la chloroquine. Alors, je voulais faire une petite précision. Il ne faut pas confondre la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui est un dérivé de la chloroquine. Et donc, ce n'est pas le même médicament qui est vendu dans le commerce. Vous savez, il y a la nivaquine, c'est l'antipaludéen. Mm-hmm. Mais ce n'est pas celui-là qu'utilise Didier Raoult. C'est celui qu'on appelle le plaquénil et qui sert pour les maladies comme le lupus. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre les deux. C'est un dérivé qui est un peu moins fort que la chloroquine. Ce n'est pas exactement le même sujet. Donc, effectivement, il y a cette utilisation par le professeur Raoult, un peu, on peut dire à la sauvage. Hein. Normalement, il y a des essais cliniques qui sont faits de façon très, très scientifique, qui ont commencé ces jours-ci, qui vont durer quelques semaines. Et on va pouvoir mesurer effectivement l'efficacité de ce médicament-là. Je pense qu'il y a une grosse polémique, parce que Didier Raoult suscite toujours la polémique. C'est un peu un scientifique un peu hors des normes. Vous savez, même physiquement, c'est un grand homme avec les cheveux très longs. Le Parisien,
il est un peu singulier,
matin,
il est singulier.
Un peu filasse, voilà, c'est ça, qui fait pas partie de l'intelligentsia des infectiologues parisiens, donc ça joue aussi. Mais c'est quand même un scientifique reconnu, même si certains que j'ai eu cet après-midi me disaient il est borderline, mais ça ne veut pas dire qu'un borderline.
Oui, bien sûr. Vous avez entendu Philippe Juvin, c'est pas n'importe qui, c'est le directeur de l'hôpital Pompidou à Paris, dans le 15e arrondissement, très touché aujourd'hui par évidemment cette crise, qui dit il faut y aller là, il faut y aller vite, et c'est lui qui le dit, Philippe Juvin. Je crois que pour le coup, c'est vraiment une parole aujourd'hui qui compte.
Oui, vous voulez dire, c'est une parole parisienne.
Chef du service des urgences.
Pas, oui, c'est absolument.
Mais bien sûr, Paris n'est pas la France, on est d'accord.
Voilà,
mais
voilà.
Chef du service des urgences à Pompidou, quand il dit il faut qu'on sache et il faut y aller très rapidement.
Eh ben, ce qui est fait, il faut y aller très rapidement. Les résultats officiels, j'allais dire, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes cet après-midi qui disaient si c'est prescrit de façon tout à fait scientifique et médicale, avec des suivis, on l'a entendu, votre invité, il disait on surveille mon cœur, etc. On met pas les gens en danger de mort. La question, c'est effectivement, est-ce que on fait pas comme ça d'habitude, voilà. Mais est-ce que la situation, elle est comme d'habitude non plus? Je pense qu'il faut raison garder, et c'est pas un peu de l'hydroxychloroquine qu'on donne à des patients qui va changer la phase de l'épidémie. Voilà.
Alors, on va y revenir évidemment dans un petit instant. On va parler des tests aussi avec vous. Pourquoi ces tests ne sont-ils faits que dans certains départements? Mickaël Darmon, bonsoir, vous êtes là?
Bonsoir, oui,
vous êtes là. Emmanuel Macron, le président de la République, il s'est exprimé tout à l'heure. Il était dans un centre de sans-abri, mais plutôt c'était aux côtés des cultes qu'il était présent ce matin. Qu'est-ce qu'il leur a dit?
Écoutez, vous savez que le président Macron, en fait, est très sensible et très conscient de la puissance du sentiment religieux dans la société. Il avait commencé son mandat avec cette formule qui avait beaucoup fait parler, en disant l'État est laïque, la société ne l'est pas. Et donc, de ce point de vue-là, il est dans cette logique de vouloir aussi accompagner ces réflexions individuelles qui peuvent exister, même si on est souvent émancipé des dogmes du religieux dans notre société. En fait, il donne aussi matière à ce principe qu'il a évoqué lorsqu'il a parlé parler donc à la nation en disant lorsqu'on sortira, on ne sera pas pareil de cette épreuve. On sera différent. Et il a voulu aussi transmettre avec et échanger avec les responsables donc des différents cultes, mais aussi avec aussi les francs-maçons et d'autres organisations laïques, la réflexion générale sur comment la société peut-elle se reconstruire, quelles sont les leçons que l'on peut tirer. Il a voulu aussi parler gérer le moment, c'est-à-dire tout simplement les rassemblements et les fêtes religieuses en avril. Vous savez que ça va être la période des fêtes pascales, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs. Ça va être au mois d'avril. Ça donne également un indice d'ailleurs sur le calendrier du confinement, puisque s'il n'y a pas de rassemblement pour ces fêtes-là, j'ai regardé Pâques tombe le 12 avril de ce point de vue-là, et le Ramadan également sera également durant le mois d'avril. On voit bien que la réflexion veut aussi gérer les grands événements de rassemblement des familles, des individus qui vont arriver maintenant. C'est une manière de dire voilà, je gère aussi le présent, mais je me projette dans ce jour d'après. On verra quel cadre politique à ce moment-là il donnera à cette société qui doit normalement être différente. On l'a souvent entendu, mais dans les grandes crises, mais cette fois on verra comment ça sera également géré.
Ouais. Alors Alain Accot, chef du service police-justice d'Europe 1, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il se dit toujours contre un confinement total. Il l'a redit d'ailleurs ce matin, il l'a répété devant les représentants des cultes, mais pour un meilleur contrôle. Alain Accot, sur le terrain, on se dit pourquoi le couvre-feu ne devient pas national? Sans parler de confinement total, mais typiquement le couvre-feu, on l'a vu à Nice, on l'a vu dans plein de villes. Pourquoi il ne devient pas national, lui?
Parce que les situations ne sont pas les mêmes partout. À Nice, il y a des quartiers sensibles. Il y a la tentation visiblement constatée ces derniers jours de sortir de chez soi un petit peu trop souvent. Et il a été laissé à toute latitude au maire, par le ministre de l'Intérieur, de décider au cas par cas, quand ça leur paraissait nécessaire, d'ordonner un couvre-feu. Et ces couvre-feux sont ensuite validés par les préfets. Et ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, à Arras, il y avait un couvre-feu qui a été décidé par le maire et qui a été retoqué pour irrégularité. Alors c'est peut-être du juridisme, mais de toute façon, le couvre-feu ne peut pas être imposé partout, parce que toutes les situations ne sont pas égales. Et quand on parle de couvre-feu, c'est en fait un confinement plus, puisque les dérogations sont encore plus réduites pour pouvoir circuler entre, par exemple, 23h et 5h du matin. Ça, c'est réservé à ceux qui travaillent de nuit, ou c'est réservé, évidemment, à ceux qui ont des urgences, et des urgences sanitaires, notamment.
Sanitaires, ouais. Ève Roger, on a beaucoup entendu dire que cette semaine pourrait être la semaine du pic, notamment en Île-de-France. Est-ce que là-dessus, on est dans ce créneau là, on est dans ce pic, dans cette vague là très forte cette semaine.
On est dans la vague, mais le pic c'est pas pour tout de suite. Vous savez, la vague avant, il faut qu'elle monte pour arriver au pic. Donc on est dans la vague, et là on est dans une vague grossissante, et le pic est plutôt attendu vers les premiers jours du mois d'avril en Île-de-France. Ça veut dire que effectivement, on suit le Grand Est, c'est chacun sa vague, et on a la chance de bénéficier de toute l'expérience à la fois de la Chine, de l'Italie, du Grand Est. Et c'est vrai que tous les professeurs que j'ai eu aujourd'hui au téléphone qui sont à Paris expliquent à quel point ils préparent depuis plusieurs semaines, ils ont eu la chance de pouvoir préparer depuis plusieurs semaines l'arrivée de cette vague en Île-de-France, et maintenant ils n'ont plus qu'à croiser les doigts, parce qu'on ne sait jamais, l'imprévu est toujours là, l'imprévu est dans cette épidémie-là, aucun infectiologue ne fera des projections avec certitude, mais ils sont préparés, ils se sentent préparés, ça c'est sûr.
Michael Darmon, Emmanuel Macron s'est exprimé lundi dernier, si mes comptes sont corrects. Il ne s'exprimera pas ce soir. Il y a eu une rumeur comme ça qui a enflé et puis qualifié d'infondée
Il y a que ça, j'allais dire.
Néanmoins, il est sommé de toutes parts, poussé par tous à durcir les règles. Pourquoi vous riez?
Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est de toutes parts. C'est bien vrai. Non, je me moque pas de vous, bien au contraire. J'acquiesce. Il est vraiment cerné,
mais pour autant, non, pas contre un confinement total, parce que ça pourrait être pire, finalement, dit-il. que les mesures en vigueur aujourd'hui.
Oui, parce que le confinement total, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sort plus jamais. C'est par essence, on a parfaitement compris à quel point c'est inopérant et contre-productif et impossible. On voit déjà les difficultés avec un confinement tel qu'il est aujourd'hui et pour imaginer ce que ça signifierait confinement total. En revanche, on peut s'attendre à un durcissement des consignes actuelles. On l'a déjà évoqué maintes fois, mais vraisemblablement ça, on peut aller dans cette direction,
vers,
tout simplement restreindre ou voire complètement proscrire les sorties pour aller faire du sport, hein, pour le fameux jogging. Ouais. Ça peut être les sorties peuvent être réduites uniquement au fait d'aller faire les courses de première nécessité ou en cas d'urgence sanitaire.
Ouais.
Donc ça,
ouais,
c'est ce vers quoi on peut aller. D'ailleurs, le cadre législatif de l'état d'urgence sanitaire permet aussi, on l'a vu, on en parlait avec Alain Acco, permet ici ou là, selon les situations, de durcir selon les territoires et les régions. Et par rapport effectivement à ce calendrier, combien de temps ça pourrait durer? Est-ce qu'on s'attend aussi à une deuxième décision? Édouard Philippe s'exprime ce soir. Peut-être va-t-il encore donner peut-être des pistes ou une décision plus claire. Mais en réalité, on s'attend aussi à un prolongement de la période de confinement. Tout à l'heure,
comme l'a laissé entendre d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, retour à l'école vers le 5
évidemment.
Mai.
Vous rendez compte,
ça laisse entendre.
Voilà. On a deux indices. Hein. On a d'abord ce qu'a annoncé Macron devant les responsables des cultes en disant pas de rassemblement religieux durant les fêtes d'avril. Donc on sait que avril, ça va être terminé. Et puis on se retrouve avec effectivement la déclaration de Jean-Michel Blanquer qui lui dit le scénario idéal, ce serait que les élèves reprennent l'école le 4 mai. Donc ça veut dire que si le 4 mai les enfants peuvent repartir à l'école, ça veut dire que tout est levé parce que on peut pas imaginer que ça soit partiel. Donc on ne sait pas, on attend effectivement ce soir de voir dans quelle mesure Édouard Philippe lève un coin du voile. En tout cas, ce matin, il y a eu quand même un appel assez puissant, hein, 60 000 généralistes qui ont signé un appel dans le Parisien pour interpeller le président en disant mais soyez plus clair dans votre communication, soyez plus explicite parce que on a besoin effectivement d'avoir ces précisions. Là, on fait des indices, on mène l'enquête, on fait des recoupements, mais on attend évidemment que la parole soit officielle.
C'était un cri de colère de ces 60 000 médecins hospitaliers.
Absolument.
On va y revenir. On va y revenir aussi avec vous, Alain Acco, dans un petit instant, parce que bien sûr, il y a confinement, même s'il n'est pas total. Ce confinement génère évidemment des poussées dans certains domiciles, de nervosité. Et malheureusement, ça va aussi très loin parfois. On va en parler avec vous dans un petit instant, les violences conjugales notamment qui progressent. A tout de suite, les grandes voix sur Europe 1 au 32-21.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec, comme chaque jour, on ne change pas les bonnes habitudes, même à distance, le débat des grandes voix avec autour de vous à distance Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1 et Alain Acco, chef du service police justice d'Europe 1.
Oui,
vous pouvez leur
faire en ce moment.
Oui, alors on est multitâche en ce moment. Vous pouvez leur poser toutes vos questions, c'est au 39-21 et tous les bénéfices sont reversés bien sûr à l'Institut Pasteur.
Bon alors on va faire d'abord Alain Acco, si vous le voulez bien, une question très pratico-pratique, vous savez bien c'est ma signature aussi ça, avec Rachel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Rachel, et elle s'adresse directement à vous Alain cette question. Bonsoir Rachel,
bonsoir,
bienvenue
bonsoir.
À vous, on
merci.
Vous écoute.
Merci, oui je voulais dire que le confinement je ne comprends pas parce que moi dans mon quartier je n'ai pas vu un seul flic. Aucune personne qui peut mettre des contraventions. Je ne comprends pas. On nous dit qu'on met des contraventions, mais non. Moi, mon quartier, ils se promènent, ils courent, ils font, je sais pas. Ils ne respectent rien. Et donc, on peut pas.
Vous êtes dans quel quartier, Rachel?
Ben, j'habite dans le 17e, mais à la Porte d'Anières. Voilà. Je suis dans le 17e, Porte d'Anières. Et là, voilà. Personne ne tient, je sais pas. On a l'impression
Alain
qu'ils ne comprennent rien.
Alors Alain Acco, la désinvolture de certains Parisiens et l'absence ou peut-être trop de rareté chez les...
Chez les policiers ?
Chez les policiers ?
Chez les fonctionnaires de police du 17e. Ça, il se trouve que j'habite aussi dans le 17e. Et moi, j'ai été contrôlé 3 fois. Donc bon, on n'habite pas forcément dans les mêmes quartiers. Et effectivement, je suis peut-être trop près du commissariat pour échapper aux rondes de police. J'ai pas de réponse pour dire à tel endroit il y a pas assez de policiers. Après, la notion de d'infraction au confinement, effectivement, est très variable. Et c'est ce que vous entendrez demain dans l'enquête que fera et diffusera demain Europe 1. Beaucoup d'habitants appellent le 17 pour signaler des infractions. Ils estiment que certains voisins ne font pas ce qu'ils font, ne ce qu'ils doivent faire plus exactement, en organisant des fêtes par exemple, ou des rassemblements familiaux ou amicaux. Ils dénoncent des regroupements en bas de leur immeuble de jeunes qui jouent encore au football. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que les policiers ne peuvent pas être tout le temps partout pour réprimer toutes les infractions qui sont constatées, parce que forcément vous pouvez avoir l'impression que les gens en font trop, s'éloignent trop. À ce stade, je rappelle qu'il n'est pas interdit de faire des jogging. Ça viendra très probablement. En tout cas, il y a une forte pression dans ce sens-là. Il faut voir ce qu'on interprète comme un rassemblement qui va à l'encontre du confinement qui est recommandé. Les marchés, notamment, sont un vrai souci. Et la mairie de Paris, aujourd'hui, a décidé, et l'a fait savoir, de saisir le préfet de police pour décider demain quels marchés doivent être encore plus réglementés, voire fermés à Paris.
Ah oui. Merci Rachel de votre appel et merci Alain Acot de votre réponse. Encore un mot, peut-être Ève Roger, sur le confinement, vous vouliez apporter une précision.
Oui,
c'est vrai que...
Ouais,
allez-y.
Le confinement, c'est un peu comme un médicament. Il faut évaluer les bénéfices, oui, et les risques. Et un confinement total, effectivement, ça serait mettre le pays à l'arrêt. Ça, on l'a vu, c'est le cas déjà en Italie. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur des syndromes dépressifs, même des suicides, parce que quelqu'un qui fait faillite, c'est terrible. Mais ça peut avoir aussi des conséquences sur la santé des gens qui sont dans le confinement, des phlébites, des complications, etc. L'isolement des personnes âgées, ça se mesure, ça se calcule, ça se prévoit. Et donc, finalement, je voudrais rappeler quelques chiffres quand même. Qui permettent de remettre, je dirais, l'église au milieu du village. Il y a 80% des personnes qui guérissent, qui ont des symptômes bénins. Il y a 98 à 99% des personnes qui guérissent du Covid-19. Donc il faut avoir ça en tête quand même quand on dit confinement total, ou alors 1% de... C'est dramatique, mais il y a quand même la plupart des gens qui s'en sortent, ouais. Et bien.
Alors Alain Acot, justement, quand on parle des conséquences du confinement total et même du confinement là au stade où on le vit aujourd'hui, ça génère évidemment beaucoup de nervosité, surtout dans des petits intérieurs parfois, ou pas nécessairement d'ailleurs, simplement dans des couples où l'ambiance n'y est pas au départ, et ça génère des violences conjugales et de plus en plus, hein. Il y a une vraie inquiétude.
Ah, il y a une vraie inquiétude. Alors elle se traduit pas pour l'instant dans des chiffres, dans des statistiques, il est trop tôt, mais c'est une vraie inquiétude des ministères, des associations qui, depuis la fin de la semaine dernière, martèlent le message « Appelez le 17 en cas d'urgence, le 17 ». Le 3919, qui est un autre numéro, permet de consulter, d'avoir des conseils, mais ce n'est pas forcément évident. Ça, en revanche, ce qui est pratique, c'est la plateforme de signalement qui permet, sans parler fort dans un appartement, d'échanger avec des conseillers, de signaler discrètement par sa tablette, par son smartphone, un comportement agressif d'un conjoint qui ne supporterait pas le confinement. Je peux vous dire que, par exemple, dans certaines villes de province, on réfléchit, du nord de la France notamment, on réfléchit actuellement à comment prévenir d'éventuelles violences conjugales qui leur paraissent totalement inévitables, si j'ose dire, ou en tout cas très, très logiques. Et ce qui est envisagé par des policiers, mais encore faut-il que ça soit validé par la justice, par les procureurs, c'est de faire du proactif, c'est-à-dire de voir dans ce qu'il y a dans les familles qui ont déjà donné lieu à des plaintes, à des procédures pour violences intrafamiliales, d'aller frapper à la porte en demandant « Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout se passe bien ? Monsieur, je vous rappelle qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, on vous a tiré les oreilles. Faites attention, nous sommes vigilants. Cette prévention-là, elle n'est pas encore actée, elle n'est pas encore effective, mais ça fait partie des projets de certains responsables de police en province.
Ouais. Ouais. Ève Roger, encore un mot ce soir. On entendait aussi dans le journal de 18h et puis avec mon invité Yves Morin, ces tests, hein, ces tests de dépistage au Covid-19 qui sont pratiqués, ouais. Notamment dans l'Institut hospitalier universitaire du professeur Didier Raoult, et puis en Essonne aussi et dans d'autres départements maintenant. Ces tests, là-bas, il y en a.
Ici, ouais, je crois que vous en avez parlé avec Jimmy Mohamed. Il y a un problème d'abord de capacité. Ça, on l'a dit souvent, on n'est pas en mesure de tester toute la population. Donc ça, c'est une première chose. Et puis c'est
5 à 8 000 par jour, apparemment, voilà. Aujourd'hui, selon le scientifique Jean-François Delfrécy.
Voilà, c'est le président du conseil scientifique. Donc, ouais. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de débat. Il faut laisser les tests aux soignants parce que c'est eux qui voient des malades, c'est eux qui voient des gens. Il faut laisser les tests aux personnes qui sont en contact avec les autres.
Donc, ça, non, mais ça, les politiques sont testées? Par exemple,
ouais, les politiques sont testées. Alors là, je pense que vous parlez d'Emmanuel Wargon, par exemple. Vous connaissez l'histoire d'Emmanuel Wargon. Oui. Elle est quand même mariée avec un urgentiste, qui lui-même est arrivé avec des symptômes. Il est allé faire le test et elle l'a accompagné. On lui a dit, c'est peut-être pas mal aussi que vous le fassiez. Il n'y a pas toujours, il n'y a pas forcément des privilégiés. Mais effectivement, sur cette
ça peut générer des réactions quand même dans la population.
Mais je le comprends. Mais alors, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai eu des symptômes la fin de semaine dernière, et malgré la pression, je dis non, je le fais pas. On me dit de pas le faire, mes symptômes sont bénins, je ne vais pas le faire parce qu'il faut réserver ces tests-là aux autres, à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais bientôt, on va changer de stratégie. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Pour utiliser ce dépistage à la sortie du confinement. Et là, ça sera important. Mais le dépistage généralisé, moi, je me suis plongée ce week-end dans ce qui se passait en Corée du Sud. Il va falloir l'accepter aussi. Ça veut dire que vous allez être testé. On va refaire toute votre vie avant, après, pour savoir qui vous avez rencontré. Enfin, ça sera peut-être pas la mode de la Corée du Sud, mais c'est quand même une intrusion aussi dans la vie personnelle et qui est absolument incroyable avec votre téléphone portable qui va vous servir de bornage. On va aller regarder qui vous avez rencontré, où est-ce que vous êtes allé, qui vous avez parlé. C'est incroyable.
Il y a tout cet aspect-là, évidemment, intrusion, très intrusif, vous l'avez dit, Ève Roger. Et puis, il y a l'autre aspect, comment effectivement ressortir en nombre dans les rues un peu partout dans le monde quand l'épidémie, enfin en tout cas quand on aura les chiffres qui baissent comme en Chine, ça on verra dans un prochain temps. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse et qu'on s'en dise un mot un prochain soir dans la semaine, mais on reste avec vous Michaël Darmon parce que vous êtes éditorialiste politique quand même sur ce dépistage des politiques qui fait quand même bondir les citoyens français lambda, on va pas se mentir.
Oui, effectivement, parce que d'abord tout le monde se demande pourquoi on n'est pas en amont identifié. On l'a entendu ce matin, effectivement, Marine Le Pen qui a pilonné à ce sujet. Et d'ailleurs, ça donne un petit peu le ton de ce qui se passera après. Elle disait qu'elle polémiquait pas. Qu'est-ce que ça va être quand qu'elle va se mettre à polémiquer? Mais je voulais aussi rebondir sur ce que disait Alain Co tout à l'heure sur la manière dont les gens réagissaient également, la prévention, téléphoner éventuellement pour signaler le fait qu'il y ait des infractions. Aux consignes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette société de vigilance qu'avait décrété Emmanuel Macron après l'attentat à la préfecture de Paris, elle est en train de s'appliquer et de prendre maintenant forme à travers cet événement de cette épidémie et de cette société qui est arrêtée et cet intérêt mutuel qui est en train de naître. Effectivement, on est solidaire et on fait attention, par exemple, beaucoup aux personnes qui sont fragiles autour de nous, au personnel soignant qui fait un travail incroyable, mais on remarque aussi les actes d'incivisme et maintenant on les répertorie et on les signale. Imaginez-vous la charge, on va dire politique, émotionnelle, d'appeler la police pour dire mon voisin à côté il se comporte pas bien. Eh bien aujourd'hui on le fait, mais on le fait dans le cadre d'une démarche justement pour faire respecter les consignes et dans un moment d'intérêt général. C'est une mutation. Du comportement de notre société à cet égard. Et c'est effectivement cette société de vigilance, pas sur les sujets qu'on imaginait, mais qui est en train de prendre forme.
Qu'est-ce que cela donnera quand la propagation de l'épidémie sera stoppée, comme en Chine? Comment ressortirons-nous de chez nous? La fin du confinement se traduira-t-il par une sortie massive ou bien par des étapes pour remettre les citoyens dans la rue? J'aimerais bien qu'on en parle, si vous le voulez bien, avec vous demain, les grandes voix, à distance, bien sûr, parce que le confinement, certes, va être prolongé. On parle à minima du 4 mai désormais, cela va être certainement confirmé ce soir, on aura d'autres dates par Édouard Philippe, mais après, comment ressortons dans la rue? Est-ce qu'on procédera comme en Chine? Est-ce qu'on procédera autrement? Peut-on se projeter d'ores et déjà? On se donne rendez-vous demain, les grandes voix?
Avec plaisir.
À demain.
Allez, homework. Voilà, on va plancher.
Homework, exactement. Alors c'est parti,
on a un sujet.
Merci beaucoup.
Voilà. Au revoir, Nathalie. On interrompt.
Allez, merci beaucoup Ève Roger, Alain Acco, évidemment Michaël Darmon. À demain, même heure, même endroit, et avec votre sourire et vos infos, bien entendu. Merci. Europe 1.